This year, the judges of the Cannes Film Festival presented the award Best Film by a New Director to Easy Rider. It's the story of a man who went looking for America and couldn't find it.
Bonjour, bienvenue dans la série musicale Hippie Hippie Check, une émission proposée par Simon Rico. Après avoir ranimé le feu de la contre-culture, aujourd'hui nous partons les chakras bien ouverts pour un long trip psychédélique qui nous fera planer haut de San Francisco jusqu'à Katmandou.
Hélène a éprouvé la première les effets du LSD. Elle a eu chaud, elle a eu froid. Elle a senti sa nuque s'alourdir, ses joues se durcir. Elle se plaignait. Puis elle a commencé à voir le tapis grouillé de serpents, les murs se déformer, les visages se rétrécir autour d'elle. Jean, ensuite, a vu le plafond couler comme si le plâtre n'était pas pris. Puis il s'est cru au bord de la mer. C'était merveilleux, puis c'était la tempête. 4 heures plus tôt, ils avaient croqué chacun un sucre imbibé de 250 millionièmes de grammes de LSD.
Oh là là. Oh.
Oh. Hélène croit voir bouger un poisson d'argent. Le LSD les rapproche. Ils vont délirer ensemble jusqu'à la fin. Ils sont emportés par la drogue, absolument annihilés par elle.
Le 7 octobre 1966, la France, ou au moins le grand public, découvre le LSD et ses effets avec ce reportage du célèbre magazine 5 colonnes à la une. Hasard du calendrier, de l'autre côté de l'Atlantique, l'État de Californie a interdit la veille ce puissant psychotrope dont on dit que les propriétés hallucinogènes libèrent la conscience. Même illégal, les hippies en restent très friands. Ils estiment que les modifications de la perception que provoque le LSD contribuent à les ouvrir à une plus grande spiritualité. Deux figures majeures du Flower Power ont médiatisé et favorisé sa consommation, le neuropsychologue Timothy Leary et l'auteur à succès Ken Kesey, connu pour son roman « Vol au-dessus d'un nid de coucou » qui sera plus tard adapté à l'écran par Miloš Forman. Bien sûr, les groupes de rock psyché figurent aussi parmi les meilleurs ambassadeurs du LSD. En 1965, Kim Foley, l'ange noir du rock californien, signe l'une des premières odes à l'acide. C'est l'été, mes petits chats. Il est temps de prendre un trip.
Summertime's here, kiddies, and it's time to take a trip. To take a trip. This world's so bad. You feel so sad. You gotta take a trip into a world so glad. A world of frogs and green fountains. And flying dogs, and silver cats, and emerald rats, and purple clouds, and faceless crowds, and walls of glass that never pass, and pictures hanging upside down. You won't ask where you are. It's another world, you and your girl, and all your friends will all be there. Oh yeah. Let's take a trip, let's take a trip. TNT, SOS, HOP, TOP. It's the top, it's the top. Hey, here we go now. Let's climb some mountains, everybody. Get on your walking shoes. Start to climb some mountains. Hey, here we go. Let's take a trip, let's take a trip. Let's start to dream. Let's close our eyes. It's groovy now, yeah, floating, because I'm swimming in beauty, it's all around, let's take a trip, fly from the ground, whoa, whoa, yeah, let's take a trip,
see. Oh, come on, baby. Oh, come on, baby. You're doing it right. Just put your head back.
Maux de tête, vertige, hallucinations, tremblements, feu intérieur intolérable, puis gangrène noire des extrémités et enfin la mort. Voilà les symptômes que présentaient les victimes du mal des ardents. Depuis le Moyen-Âge, de terribles épidémies de cette maladie qu'on appelait aussi feu sacré ou feu de Saint-Antoine ont ravagé le continent européen. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle que le coupable de ces fléaux fut définitivement identifié. L'ergot du seigle, un champignon qui contamine la farine de certaines céréales. En 1918, le laboratoire pharmaceutique suisse Sandoz commence à travailler sur les potentiels usages médicamenteux de ce parasite qui a tué des centaines de milliers de personnes. Un travail qui va conduire 20 ans plus tard à la découverte fortuite de l'acide lysergique ou LSD avant qu'il ne fasse planer toute une génération de jeunes gens aux cheveux longs. Le 16 avril 1943, dans son laboratoire de Bâle, le chimiste suisse Albert Hofmann découvre les effets hallucinogènes du diéthylamide d'acide lysergique, ou LSD, après en avoir ingéré involontairement. Trois jours plus tard, il décide d'en prendre 250 microgrammes, une dose qu'il pense légère. Au bout de 40 minutes, pris de vertige et d'une irrépressible hilarité, il monte sur son vélo et rentre chez lui. Inquiet des divagations de son esprit, il appelle un médecin qui ne décèle aucune pathologie, son seul conseil du repos. Rassuré, Albert Hofmann se laisse alors porter par ce qui est le premier trip LSD de l'histoire. Vision hallucinatoire colorée, distorsion des objets, de l'espace et du temps, amplification ou assourdissement des sons ambiants. Le lendemain, quand il se réveille, Albert Hofmann note un sentiment de bien-être qui l'enveloppe, comme si le monde autour de lui était recréé. Après son trip initial, le jeune chimiste en est sûr, le LSD va ouvrir un nouveau champ de recherche pour les thérapies psychiques. Sandoz dépose immédiatement un brevet et le fils du patron, qui est lui-même psychiatre, mène une première expérimentation prometteuse dans sa clinique.
En sortant de chez moi, le percepteur a tout cassé dans l'ascenseur et avec sa petite auto, il est tombé dans une bouche de métro. Au ministère, il est entré en lisant l'humanité. Il s'est fait virer. Le LSD que j'ai mis dans son café a fait mauvais effet à dégager. En descendant l'escalier, la concierge m'a interpellé. J'allais filer en courant lorsqu'elle m'a dit très gentiment qu'elle avait payé mon loyer. Elle m'a invité à déjeuner, un vrai conte de fées. Le LSD que j'ai mis dans son fauteuil a fait un bel effet
à dégager.
Mon voisin Monsieur Dupont avait très bonne réputation. Ça faisait une trentaine d'années qu'il travaillait au PTT. Mais un jour, comme un idiot, il est allé à son bureau en kimono. Le LSD dans son tabac brisé avait fait son effet. J'en aurais plein d'eau, des petits costards, des petites autos, des belles pompes tout en croco, et prendre un pot de mago. J'irais vendre des pièges à rats déguisés en porte-clés. Je vais bien rigoler. Le DDT qu'on met dans mes idées à longueur de journée. Tant d'années, on n'aura plus aucun effet. La société a ses jolies pensées. Voulait faire la peau à ma liberté. Oh, mais manque de peau, ça n'a pas marché. Oh, je vais décoller, partir en vol plané. On va m'enfermer, mais rien ne pourra plus m'arrêter. Les murs sont complètement lâchés.
Après la guerre, Sandoz met au point plusieurs préparations tests de LSD qui sont distribuées aux chercheurs du monde entier. Elles serviront aux quelques 4000 études menées en psychiatrie, psychanalyse et psychothérapie entre 1947 et 1966. Aux États-Unis, le psychiatre Henry Osmond invente par exemple la thérapie psychédélique. Elle consiste en une prise assez forte de LSD, susceptible de déclencher une expérience proche de l'illumination religieuse ou mystique, pour ensuite aider le patient à reconstruire sa personnalité. Un de ses confrères constate, lui, des résultats encourageants contre l'alcoolisme, tandis qu'aux Pays-Bas, un autre s'en sert pour traiter le stress post-traumatique d'anciens détenus des camps nazis. La CIA elle-même procède à des tests autour de cet alcaloïde, envisagé comme un potentiel sérum de vérité ou comme une arme chimique incapacitante. De ces opérations, baptisées Artichaut et MK Ultra, rien d'utilisable ne sortira. Pendant ce temps, détourné de son usage médicamenteux, le LSD se répand dans les milieux intellectuels. Installé en Californie, l'écrivain britannique Aldous Huxley teste lui aussi les effets de l'acide à la suite de son intérêt pour le mysticisme des Indiens. En 1954, il a raconté son expérience de la mescaline dans Les Portes de la Perception, un ouvrage qui deviendra une bible pour les hippies. Au point qu'il a donné son nom à l'un des plus célèbres groupes des 60s.
Not to touch the earth, not to see the sun, nothing left to do but run, run, run. let's run. House upon the hill, moon is lying still, shadows of the trees, witnessing the wild breeze. Come on, baby, run with me. Let's run. Mansion is warm at the top of the hill. Rich are the rooms and the comforts there. Red are the arms of luxurious chairs. And you won't know a thing till you get inside.
Pour Aldous Huxley, consommation de produits hallucinogènes et expériences mystiques vont de pair. Ces drogues servent, avance-t-il, de passeport pour la philosophie éternelle, titre de l'un de ses livres paru en 1948. Un point de vue qu'adopteront les hippies. L'écrivain britannique prend sous son aile un jeune docteur en psychologie de Berkeley, Timothy Leary, qui s'intéresse aux effets thérapeutiques des drogues hallucinogènes. Après avoir découvert la psilocybine au Mexique, Leary part enseigner à Harvard jusqu'à ce qu'il en soit renvoyé pour avoir expérimenté les effets du LSD sur ses étudiants.
Dr. Ralph Metzner, a psychopharmacologist and Timothy Leary's principal assistant, with his description of the LSD experience.
When you take LSD, everything falls apart. All learned structures, all thought patterns, all beliefs, opinions, emotional convictions, positive or negative, they all fall apart. How a person sees himself, what he thinks of himself in relation to the world, how he sees himself, those are the ones that to which you cling most tenaciously, and those are the ones that go last. But essentially what happens when you take LSD, it all goes, it all breaks apart, and you're left with nothing. Then when you come back, what happens is that you go back to the same patterns that you left. But you then have the knowledge that something else is possible, and the possibility of perhaps changing.
Grâce au mécénat de la richissime famille Mellon, Timothy Leary continue néanmoins ses études sur les effets de l'acide sur la côte Est, dans la propriété de Millbrook, avec sa communauté bientôt renommée Ligue pour la découverte spirituelle, en anglais l'acronyme donne LSD, leur mot d'ordre, garder l'esprit ouvert, une posture que conseille également le groupe Kaleidoscope en 1967.
Across the sea, men know not why they have died. Still love remains in some strong heart. Keep your mind open. Fought with men like chess, no consequence of lies. And the only sound that's heard is that of weeping wives. Still love remains in some strong halls. Keep your mind open. Trees and tides, yet across the sea men know not why they have died. Still love remains in some strong heart. Keep your mind open. Keep your mind open.
À Millbrook, Timothy Leary théorise sa politique de l'extase qui place le LSD au sommet de la hiérarchie des drogues. L'acide permet de libérer le cerveau de l'esprit et de toucher le nirvana, cette transcendance mystique que seuls les Bouddhas pouvaient atteindre jusque-là au prix d'intenses efforts. Le LSD, c'est donc la drogue psychédélique, celle qui révèle l'âme au sens étymologique du terme, du grec psyché, âme, et delun, qui rend visible. De plus en plus médiatisé, le pape du LSD s'en va prêcher les bienfaits de l'acide sur tous les campus américains avec son spectacle multimédia La mort de l'esprit. S'appuyant sur sa notoriété et son amitié avec l'écrivain beat Allen Ginsberg, Timothy Leary devient l'un des maîtres à penser des hippies. Début 68, les Moody Blues lui dédient même une chanson, Legend of a Mind.
Looking you'll hear the most about a light they say that shines so clear. So raise your glass, we'll drink a toast to the little man who sells you thrills along the pier. He'll take you up, he'll bring you down, he'll plant your feet back firmly on the ground. He flies so high, he swoops so low, he knows exactly which way he's gonna go.
Vous êtes sur France Culture, la série musicale Hippie Hippie Chèque, Simon Rico. Côte ouest, le LSD a un autre ambassadeur, l'écrivain à succès Ken Kesey. Il a commencé à s'intéresser aux drogues dès les années 50, pendant ses études à Stanford, et il a même participé comme cobaye aux expérimentations scientifiques de la CIA sur l'acide lysergique. Cet épisode l'inspire d'ailleurs pour son roman Vol au-dessus d'un nid de coucou qui paraît en 1962. Deux ans plus tard, Ken Kesey fonde la bande des Merry Pranksters. Après leur grand tour halluciné des États-Unis en bus, ces joyeux farceurs s'installent autour de San Francisco et lancent les acid tests fin 1965 de grandes bacchanales où l'on plane haut en écoutant du rock psyché. Avec le Grateful Dead, les Jefferson Airplane sont des habitués de ces acid tests. Dans White Rabbit, la chanteuse Grace Slick ose le parallèle entre un trip et le monde imaginaire d'Alice au Pays des Merveilles. Une audace qui lui évite miraculeusement la censure et ouvre au groupe la route du succès.
One pill makes you large.
pour se fournir en pilules, Ken Kesey et les Merry Pranksters ont une bonne adresse, Owsley Stanley, alias White Rabbit. Le jeune résident de Berkeley devient même le meilleur producteur d'acide au monde quand Sandoz cesse définitivement la production de LSD au printemps 66. D'autres apprentis chimistes se lancent eux aussi dans la fabrication lucrative d'acide, d'autant que le LSD est encore légal. Finalement, le 6 octobre 1966, l'État de Californie l'interdit, mais les buvards continuent de se vendre en masse sous le manteau. À Etagebury, la communauté de freaks ne cesse de grossir. Le trafic de dope, LSD, herbes, champignons, amphétamines alimente l'économie souterraine du quartier. Pas une fête, pas un concert n'a lieu sans son ambiance enfumée et parfumée. Dans la rue, les mômes aux cheveux longs fument des joints, roulés dans du papier maïs jaune siglé zigzag, et cela agace autant les autorités que la population straight.
Ce que je veux, c'est du sérieux, c'est pas de l'herbe de banlieue, c'est pas du pavot domestique. Ce que je veux, c'est du sérieux.
Viens dormir dans mon hamac, viens dans mon grand lit tout blanc. Pas besoin d'aphrodisiaque, pas besoin de stupéfiant, stupéfiant, stupéfiant.
Ce que je veux, c'est du solide, de la mécanique, du rapide. Ce que je veux, c'est du bon leader. Ce que je veux, c'est du sérieux, du sérieux.
Laisse ta moto au garage. Je crois qu'on peut, sans moteur, se faire l'équiper sauvage, sans chrono et sans compteur, sans compteur, sans compteur.
Ce que je veux, c'est du mystique, des encensoirs, des trucs magiques. Ce que je veux, c'est du mystique. Ce que je veux, c'est du sérieux, du sérieux, du sérieux.
Viens dans ma petite maison. Si mon temple n'est pas hindou, il y a des compensations. Tu vois, j'ai des bras partout, des bras partout, des bras partout.
Ce que je veux, c'est du cosmique, des sensations supersoniques, des machins pour bande dessinée. Ce que je veux, c'est de l'inexploré.
Viens dans mon livre de bord, viens donc voir si t'as pas peur. J'ai des moyens de transport, des noirs et des en couleur.
Ce que je veux, c'est du sérieux. Ce que je veux, c'est du sérieux. Ce que je veux, c'est du sérieux. Ce que je veux, c'est du sérieux.
Pour les hippies, la consommation de drogue a à la fois une dimension de plaisir, mais aussi de contestation. En choisissant un mode de vie alternatif, alliant drogue et mysticisme, ils manifestent leur rébellion contre l'excessive rationalité qui, selon eux, aliène l'Occident. Les hippies s'attachent donc à faire sauter les verrous de cette société judéo-chrétienne qui empêcherait d'atteindre la libération du moi dionysiaque. Cette remise en cause des fondements de la civilisation occidentale les conduit à s'ouvrir à de nouvelles formes de croyances. Sortis de la caverne, ils redécouvrent les cultures exotiques, surtout amérindiennes et orientales, loin de la corruption et de la décadence qui gangrènent le christianisme. Les ragas et les instruments indiens, sitar, tabla, tempura, sont alors très prisés, comme dans Three Kingfishers, petit précis psyché du barde britannique Donovan.
12 kingfisher birds shall you have. Dive and swim in the ripples of your love. Whoa, whoa. I dreamed you were a jewel sitting on golden crown on my head. Look at the tiny oceans in my hand. Waves of liquid colors touch the sand. Oh, I dreamed you were a jewel sitting on a golden crown on my head. My head, my head.
Bien sûr, les hippies ne sont pas les premiers occidentaux à fantasmer sur l'Orient ni à recourir aux psychotropes. Ils revendiquent d'ailleurs leur filiation avec les plus illustres représentants des paradis artificiels du XIXe siècle, Baudelaire, Rimbaud ou le club des haschichins. À bien des égards, le trip hippie s'inspire du romantisme quand les élites du vieux continent se passionnaient pour cet Orient fascinant et goûtaient avec délice au dawamesque la confiture de haschich ou à l'opium pour s'échapper du monde réel. La route vers l'Orient, vers l'Inde, le Népal ou même le Maroc devient en tout cas un passage obligé pour tout freak qui se respecte. C'est ce voyage que raconte le guitariste britannique Roger Bunn dans Road to the Sun, le titre qui ouvre son unique et rarissime disque solo paru en 1969.
First is Istanbul of Western civilization. People look, smile, salam, and ask you of your nation if you travel to the east. If you travel to the east. Meet your Muslim brothers in Turkey and Iran. Kurds are fearsome people, but they'll offer you their arm. If you travel to the east. Mm-hmm. Summit snows flare a rat where Noah stopped at last. Kings and beggars in Tehran for days and days they fast if you travel. Perhaps you'll meet a friend if you travel to the east. If you travel to the east. Alone are you, the sun rolls down the road, it has no bend. 500 miles to the next town, perhaps you'll meet a friend if you travel.
Finalement, l'appel de la route semble assez logique pour les hippies. Le trip, ce voyage intérieur à la découverte de zones inexplorées de la conscience que favorise la consommation de psychotropes, va de pair avec les périples géographiques à la découverte de l'altérité. Cette pratique s'inscrit dans la continuité des explorations beatniques, documentées par Sur la route à l'écrit, puis Easy Rider à l'écran, même si les territoires visités ne sont plus tout à fait les mêmes. Les beatniks se limitaient au nord de l'Amérique, quand les hippies s'ouvrent à la planète tout entière. Chez les hippies, le voyage en Orient s'impose comme la métaphore d'un parcours initiatique, ce schème commun à bien des traditions, et qui se marque par une succession de passages ritualisés d'un état à un autre.
Looking at me from a bubblegum tree, and all the time you was the hole in my shoe which was letting in water. Soldiers which stood at my shoulder, and all that I knew was the hole in my shoe which was letting in water.
Sure.
Vous êtes sur France Culture, la série musicale Hippie Hippie Chèque, Simon Rico. À la fin de son livre « Je veux regarder Dieu en face », le journaliste Michel Lancelot confie quelques pages à un hippie rêvant d'Orient. Nous sommes en 1968, le jeune homme de 24 ans vient de tout plaquer pour partir rejoindre ses frères hippies au Népal. Son texte, c'est une sorte de lettre d'explication adressée à ses parents. Il y règle aussi ses comptes avec l'Occident, un monde qu'il considère comme rongé de l'intérieur, tué par une science mal employée. En partant vers l'Est, les hippies veulent donc retrouver une sorte de monde vierge, un Éden d'avant l'industrie, le mal, qui a selon eux perverti la civilisation occidentale. Comme le note l'Express en 1970, l'Inde est un modèle parce que peu y parviennent et que sa réalité a moins d'importance que le mythe. La même année, Brigitte Axel, une jeune hippie de 21 ans, publie chez Flammarion le récit de son périple de Paris à Katmandou.
Ce n'est pas un hasard que vous alliez en Inde.
C'est peut-être par hasard, c'est à cause de la situation de l'Inde, la mystique de l'Inde, l'acceptation de l'Inde, la fatalité de l'Inde. On va voir ce que c'est, parce que nous, on est occidental, on est dans une civilisation complètement matérialiste dont on ne veut plus, et on essaie d'aller voir ce que c'est que tout à fait autre chose.
La spiritualité, c'est un pèlerinage que vous faites.
Oui, c'est un pèlerinage. On vient pour méditer, pour se rencontrer, pour parler, pour voir toutes sortes de choses et pour essayer de découvrir ce qu'on va continuer à faire. Il fallait que j'aille, que je fasse toute la route avant et puis que j'arrive à Katmandou et que je continue après.
C'est un voyage sans fin, qui n'a pas de bout.
C'est-à-dire qu'il y a le bout de la sagesse, mais il n'y a pas de bout, il n'y a pas de fin.
And everyone can hear the sound of the train to Bombay. The sky is white and clear, and everyone can hear the sound of the train to Bombay. Twitter, I love you, on the way to Bombay. The sun is shining here, my happiness is near, in the heart of Bombay. The sun is shining here, my happiness is near, in the heart of Bombay.
À Goa, Kaboul ou Katmandou, les Freaks, partis en quête de liberté, découvrent collectivement la différence, l'amitié et les rêves. Au début, leur route, c'est d'abord celle du pays des merveilles, mais bientôt les premières dérives commencent. En 1975, le passage de l'édition du Guide du Routard, lancé 2 ans plus tôt par 2 hippies partis sac au dos faire le tour du monde chez le géant Hachette, marque symboliquement le début du tourisme de masse. Au Népal, les Boeing 747 charrient par centaines les touristes qui, à peine descendus, se font remettre des prospectus leur vantant les meilleurs restos hippies, les nightclubs pop et les endroits où acheter du bon hashish. Quant aux populations locales, elles se lassent aussi de ces occidentaux défoncés et fauchés qui n'hésitent pas à faire la manche pour poursuivre leur trip. L'ère de la consommation, l'ère du globish mondialisé a rattrapé l'idéal de la route. Ça y est, l'Orient mythique est devenu un cliché.
En écoutant Ravi Shankar, nous ferons l'amour à l'indienne. Le yoga sera au départ de nos attitudes païennes. Nous irons boire du vin vieux en guise de drogue érotique. Et nous serons voluptueux dans nos délires anatomiques. Dans nos délires vertigineux, nos corps s'inspirent et c'est tant mieux. Dans notre chambre impudique, nous chasserons nos idées noires de par nos amitiés physiques. Nous inventerons des bonheurs baignés de senteurs arabiques. Et nous vêtirons de splendeur nos pensées plus ou moins lubriques. Dans nos délires vertigineux, s'inspire et c'est tant mieux.
Je n'ai jamais compris leur histoire. Je les avais rencontrés à Paris à la fin de l'été. Stéphane, un étudiant allemand, Estelle, une jeune américaine. Il l'a suivie en Espagne. Je crois qu'Estelle était vulnérable et pourtant inquiétante.
Dans Mort, sorti sur les écrans en 1969, le cinéaste suisse Barbet Schroeder raconte la face sombre du trip hippie sur la musique des Pink Floyd. Stéphane vient de finir ses études de mathématiques, il a pris la route en stop pour découvrir le monde. Mais à peine arrivé à Paris, voilà qu'il a le coup de foudre pour Estelle, une belle américaine, qu'il décide d'accompagner à Ibiza. Sur l'île, paradis des enfants fleurs dans les 60s, les deux tourtereaux font l'expérience du rêve hippie. Amour libre, vie de bohème, paradis artificiel. Mais dans ce décor paradisiaque, le couple se détruit, brisé par les fixes d'héroïne qui finissent par tuer. Si le film a beaucoup vieilli, cette histoire de passion destructrice fit scandale à sa sortie. La censure lui reprochait ses scènes de nudité et surtout d'avoir osé filmer un couple en train de se droguer, seringue, garrot et petite cuillère en gros plan. Mort symbolise l'échec de la révolution psychédélique. Comme Icare, les hippies se sont brûlés les ailes en voulant toucher le soleil. Les overdoses vont bientôt faucher les plus grandes stars du Summer of Love, Janis Joplin, Jim Morrison ou Jimi Hendrix, mais aussi de nombreux anonymes. Peu à peu, les drogues dures ont desséché les rêves des enfants fleurs. C'était Hippie Hippie Check, une émission proposée par Simon Rico et réalisée par Ghislaine David. À la technique aujourd'hui, Jean-Guilain Meige. Vous retrouverez toutes les références des morceaux que nous avons diffusés, une playlist et une série de recommandations sur franceculture.fr. On se retrouve demain pour un dernier épisode pour savoir ce qu'il est advenu de l'utopie hippie.